Et c'est le journal de Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous.
À la une ce matin, premier feu de l'été au cœur des habitations. 3 maisons entièrement détruites, des dizaines d'évacuations. Nous serons à Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques. Les autres titres, Bernadette.
Plages bondées, grandes marées, cocktails compliqués à l'heure du virus. Au Sable d'Olonne, les plages seront fermées à marée haute. L'Aïd sous Covid, la grande fête des musulmans forcément limitée cet été. Trump ou la petite musique de la présidentielle truquée, Alstom qui rachète Bombardier, feu vert de Bruxelles attendu dans la journée, et au LPSG, finale de la Coupe de la Ligue, angoisse de la blessure pour les Parisiens privés de Mbappé.
Et puis les invités de la matinale, vous en parliez à l'instant Bernadette, le dossier Alstom, et bien à 7h50, Henri Poupart-Lafarge, le patron d'Alstom, viendra parler du rachat donc de Bombardier, mais aussi de l'avenir du rail en France. Et puis à 8h20, le grand entretien, ce sera avec Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes. Éric Ciotti, rapporteur aussi de la commission d'enquête parlementaire sur la crise sanitaire. Vous pouvez poser vos questions au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert ou sur l'appli franceinter.fr.
France Inter.
Anglette, fin d'après-midi hier, quartier de la forêt de Chiberta. Les flammes sont au cœur des habitations. Priorité des pompiers, évacuer les habitants vite.
Évacuer le secteur. Évacuer le secteur.
Vous attendez quoi? Ça fait déjà un quart d'heure, faut partir.
Mais dépêche-toi. Ils sont venus me chercher à l'intérieur parce que moi je m'étais enfermée. Hein. Ils m'ont dit prenez juste vos papiers, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai juste passé un coup de fil à mon fils de ne pas s'inquiéter que j'étais dehors. Mais tout ce qu'il y a dedans, c'est foutu quoi. Quand j'ai vu que ça brûlait la forêt, j'ai pris vite le jet et j'ai arrosé. Mais ils sont arrivés et puis ils m'ont dit de partir.
Partir comme cette habitante au micro de Damien Metz de France Bleu Pays Basque, une centaine de personnes évacuées, pas de blessés graves, mais plusieurs personnes intoxiquées par les fumées, 11 maisons touchées, dont 3 détruites par l'incendie. Céline Arnal, on fait le point avec vous ce matin à Anglette.
Ce matin, il reste encore des flammes par endroits, mais rien à voir avec cette nuit, et c'est rapidement maîtrisé par les pompiers encore sur place. Le domaine du Pignada, c'est le poumon vert de l'agglomération bayonnaise. Un massif planté par Napoléon où un tel incendie n'a jamais eu lieu. 100 hectares de forêt ont brûlé sur les 270 au total. Avec ce symbole, le parc Issadia, une réserve écologique qui abrite des espèces endémiques et qui n'est que cendre ce matin. Le centre équestre en revanche a été épargné. Les 70 chevaux ont pu être évacués. En plus de ces 100 hectares de forêt, il y a tout autour 65 hectares de zones pavillonnaires impactées, 11 maisons touchées, 3 détruites, une centaine de personnes évacuées. 34 ont été prises en charge dans un gymnase de la ville. D'autres ont été relogées par des proches. 16 personnes en tout ont été intoxiquées par les fumées. Toutes ont été prises en charge à l'hôpital de Bayonne.
Céline Arnal de France Bleu, Pays Basque. C'est une grande partie de la France qui croule sous des températures entre 30 et 40 degrés. Alerte orange à la canicule pour les départements de Rhône-Alpes, pour aussi le Doubs, le Jura, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Chaleur plus départ en vacances. Vendredi classé rouge égale pollution. En Ile-de-France et autour de Lyon, la circulation est désormais limitée pour cette journée. Limitée aux voitures, vignettes, critères 0, 1 et 2.
Et depuis le début de l'été, c'est aussi la ruée sur les plages où la situation va encore se compliquer.
Cette année sur le sable, c'est mer, soleil et virus. Mais on a vu à quel point c'était difficile de faire respecter la fameuse distanciation sociale. Et quand les grandes marées vont arriver, dès la semaine prochaine, eh bien la plage va encore rétrécir. Au Sable d'Olonne, Sébastien Sabiron, le maire, a donc pris sa décision, fermer une partie de la journée les plages.
Des dizaines de milliers de personnes, serviettes contre serviettes, sur une bande de 15 mètres de plage, inimaginable, estime Yannick Moreau. Le maire d'hiver droite des Sables d'Olonne assume sa décision de fermeture des plages à marée haute, pourtant vertement critiquée par certains de ses administrés.
Ceux qui contestent ce type de décision sont surtout ceux qui la perçoivent comme une atteinte à la liberté d'activité économique. Je pense que le pire, ce serait de prendre le risque d'avoir des clusters aux Sables d'Olonne qui handicaperaient le reste de l'activité économique touristique de l'année, donc 3 heures de fermeture. fermeture sur une journée de 24 heures. C'est une mesure raisonnable.
En Loire-Atlantique, Jean-Michel Brard, le maire de Pornic, n'a lui pas besoin de fermer ses 14 km de plage. La marée s'en charge.
C'est des petites criques, donc naturellement, lorsqu'il y a une marée haute avec fort coefficient, il n'y a plus de plage. Donc les fermer, ça n'aurait pas de sens. Nous sommes plutôt sur une pédagogie au quotidien, de façon à ce que les règles soient appliquées.
Pour l'Association nationale des élus du littoral, le principe des plages dynamiques mises en place au déconfinement pourrait faire son grand retour à l'occasion des grandes marées. Son président Jean-François Rapin.
Une restriction sur les aspects statiques, c'est-à-dire le fait de poser sa serviette et d'y rester en été, c'est quand même quelque chose de compliqué à contrôler, mais en tout cas, on serait sur cette vision des choses. Mais là, cette fois-ci, pour un temps restreint, les coefficients vont monter très haut et ils vont redescendre assez vite.
Les grandes marées sont attendues aux alentours du 20 août, avec des coefficients relativement importants dès la semaine prochaine.
Reportage de Sébastien Sabiron. Pour les musulmans aussi, le virus impose ses conditions sur leur plus importante fête religieuse, l'Aïd al-Kébir, la fête du sacrifice qui commence aujourd'hui. Des conditions sanitaires strictes, il faudra respecter, et pour l'atmosphère aussi, ce ne sera pas tout à fait la même chose. À la mosquée de Gennevilliers, où la communauté a été durement éprouvée par la maladie, c'est un reportage de Mathilde Dehimi.
La foule est telle habituellement que les 8000 fidèles célèbrent l'Aïd dans le stade de Gennevilliers, mais cette année, on fait avec les moyens du bord, sourit Mohamed Ben Ali qui gère la mosquée.
Le dojo qui est derrière est un grand parking. En tout, pour chaque prière, on sera à peu près entre 2500 et 3000 personnes. Il faut au moins 1m20 entre chaque personne. Personne ne peut rentrer dans la salle de prière sans masque. On essaye de faire respecter les règles et de faire très très attention.
Heureusement, soupire-t-il, tout le monde n'est pas revenu à la mosquée. Cette année, l'ambiance sera aussi différente sans les enfants, remarque Brahim.
Les enfants doivent au moins assister à la fête et assister à la prière. Et c'est ça la joie de l'Aïd. Cette année, c'est exceptionnel.
Une grande fête familiale de l'Aïd que Nordine passera tout seul pour la première fois.
Je passe la fête avec ma famille au Maroc. Cette année, ce n'est pas possible. Normalement, je dois passer la fête avec ma soeur, avec ses enfants, mais j'ai décidé de la passer tout seul. Je ne sais pas si je suis positif ou pas, donc je vais rester à la maison.
La solidarité aussi est mise à mal par le virus, regrette Abdelbaki.
C'est un moment qui est très très fort. La coutume voudrait qu'on se retrouve en famille après l'abattage, en faire profiter les nécessiteux du voisinage. Donc c'est vrai que ça change beaucoup, beaucoup quand même. Mais on va essayer, via les associations, via Internet, de faire la distribution.
Le CFCM demande de limiter les grands rassemblements familiaux et aux plus âgés de rester chez eux.
Mathilde Dehimi, et puis dans son point sur l'épidémie, la Direction générale de la Santé signale que désormais le nombre de nouveaux cas quotidiens en France est supérieur à 1000. D'ailleurs, partout dans le monde, on constate des records de contamination, de décès, comme aux États-Unis où pour le troisième jour consécutif, on déplore plus de 1200 morts en 24 heures.
Et on reste aux États-Unis où Donald Trump voit sa cote dangereusement baisser dans les sondages.
En cause, justement, sa gestion de l'épidémie. L'économie américaine aussi qui est fortement ébranlée. De quoi l'inquiéter, bien sûr, à son jour de la présidentielle. D'où l'idée qu'il fait monter petit à petit, à coups de tweets répétés. Cette élection sera truquée, forcément truquée. À New York, Loïc Loury.
En mai dernier, c'est un message trompeur du président sur le vote par courrier nécessairement frauduleux qui avait été signalé pour la première fois par Twitter. Depuis, la petite musique s'est poursuivie à Washington jusqu'à hier soir. On parle d'envoyer des centaines de millions de bulletins, des centaines de millions. Où vont-ils? À qui sont-ils envoyés? C'est juste du bon sens, rien à voir avec la politique et les démocrates le savent. Et si le Covid en effet devrait pousser certains États à étendre le vote par courrier, le dispositif n'a rien de nouveau et ses risques de fraude massive n'ont jamais été observés. L'argument, malgré tout, a donc poussé hier Donald Trump à suggérer un report de la présidentielle. Consternation jusque dans son camp, Mitch McConnell, le chef des Républicains au Sénat. Jamais dans notre histoire, pendant les guerres, les dépressions, la guerre civile, même une élection ne s'est pas tenue à la date qui avait été arrêtée. Et nous trouverons un moyen d'organiser cette élection le 3 novembre. Le président, quoi qu'il en soit, n'a pas la main sur un tel report. Son message ressemble donc à un aveu de faiblesse face aux mauvais sondages ou aux chiffres calamiteux de l'économie, mais un message dangereux envoyé à sa base, cette idée que l'élection du 3 novembre, s'il n'est pas réélu, aura forcément été truquée. New York, Loïc Loury, France Inter.
Aux États-Unis, où la chute du produit intérieur brut au deuxième trimestre est historique, moins 33%. En France, on saura dans quelques minutes maintenant l'ampleur exacte du recul de l'activité. d'activité au deuxième trimestre. Dans sa dernière prévision, à la mi-juin, l'INSEE estimait le plongeon à 17%. Depuis, l'économie a quand même un petit peu redémarré. On aura les chiffres et analyses dans le journal de 8 heures. Alstom, Bombardier, une affaire qui roule. En tous les cas, la Commission européenne doit donner aujourd'hui son feu vert au rachat de la branche transport du Canadien Bombardier par le constructeur ferroviaire français. L'an dernier, la fusion Alstom-Siemens avait été retoquée par Bruxelles. Mais cette fois, Angélique Bouin, le dossier est bien mieux engagé.
Le risque de monopole est d'abord plus faible. Alstom et Bombardier sont plus complémentaires que n'était le couple Alstom-Siemens en matière de maintenance des trains et de signalisation. Alstom a par ailleurs appris de ses erreurs. Le dossier n'a pas été politisé cette fois et a sans doute été mieux préparé. L'ambiance générale était très différente, confie une source proche des négociations. L'idée de pousser des champions européens pour concurrencer la Chine a par ailleurs fait du chemin dans les couloirs de la Commission, même si ce qui guidera la décision, c'est le respect du droit européen. Et pour éviter justement une distorsion de concurrence, le groupe a promis de se séparer d'une partie de sa production de trains régionaux. L'usine alsacienne qui emploie 800 salariés sera vendue. Enfin, avec la défense du climat, priorité de Bruxelles, le train reprend du terrain sur l'aérien. Or Alstom met volontiers en avant sa volonté d'investir dans les énergies de demain pour faire rouler ses trains. Les Chinois lorgnent sur l'hydrogène avec un feu vert pour ce rachat. Alstom, qui emploiera 76 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d'euros, espère bien ne pas se laisser distancer. À Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Le patron d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, sera l'invité tout à l'heure de la matinale à 7h50. Le Stade de France retrouve ses supporters ce soir.
Pas plus de 5000 personnes comme la semaine dernière avec la finale de la Coupe de France. Ce soir, donc, c'est la finale de la Coupe de la Ligue PSG-Lyon. Les Lyonnais n'ont plus gagné le trophée depuis 2001. Les Parisiens ont remporté la semaine dernière justement leur 13e Coupe de France. Mais Mbappé blessé. Alors Jean-Pierre Blimeau.
L'ombre de la Ligue des Champions plane sur cette finale pour les deux équipes, mais pour le PSG, c'est aussi l'ombre de Kylian Mbappé, car la peur de se retrouver à l'infirmerie à quelques jours d'un match crucial peut parfois inhiber même les meilleurs joueurs. Interrogé sur le sujet, Marco Verratti, l'un des cadres du PSG, relativise.
On joue au football, on sait que ça peut arriver des blessures, mais je pense que personne n'a peur, personne ne lèvera la jambe, parce qu'on joue un trophée dans un match, c'est pour ça que je pense que tout le monde sera 100%.
Malgré tout, faut-il ménager certains joueurs comme Neymar, l'autre atout majeur du club parisien, surtout dans le cas où la rencontre se passerait bien pour le Paris Saint-Germain. Pour l'entraîneur Thomas Tuchel, il est surtout important de négocier au mieux cette finale avec la meilleure équipe possible, en attendant peut-être de retrouver Mbappé un peu plus tard.
Sans Kylian, c'est une influence très très grande pour nous. Chaque jour compte pour faire un miracle, mais ça c'est le défi.
Mais le défi du soir pour le PSG, c'est de gagner une 6e Coupe de la Ligue et un 17e titre national depuis la prise de contrôle du club par les dirigeants qatariens, sans compter les 7 trophées des champions disputés dans un contexte de début de saison. En espérant très fort que les joueurs clés comme Neymar ne passeront pas eux aussi par la case infirmerie avant d'aller à Lisbonne pour la fin de la Ligue des Champions.
Finale de la Coupe de la Ligue PSG-OL à 21h10 au Stade de France. Et puis pour la NBA, retour sur les parquets hier, un genou à terre pour cette première rencontre hier en Floride après 4 mois d'interruption. Manifestation de solidarité avec le mouvement Black Lives Matter des joueurs et des entraîneurs.
Merci Bernadette Chamonaz et vous, on vous retrouvera sur le parquet du studio de France Inter à 9h.